France Inter.
France Inter, il est presque exactement 13h. Et voilà, il est 13h, c'est bien l'heure de votre journal, Éric Delvaux. Bonjour Éric.
Nous y sommes Thomas, bonjour à vous, bonjour à tous. À la une de ce 13h. La mort du rappeur Wé Renois annonce il y a quelques minutes de son producteur, il avait 31 ans. Wé Renois a été l'an dernier le plus grand vendeur d'albums en France, devant des artistes bien plus connus du grand public. Son portrait dans un instant avec Mathieu Culroy. À l'Assemblée nationale, la reprise des débats ce matin sur la délicate question de l'aide à mourir avec une bataille sémantique, nous dira Alice Cachener, autour des termes suicide et euthanasie. Une rencontre Poutine-Zelensky est envisageable, dit Moscou ce matin. La carotte russe et le bâton aussitôt, puisque l'Ukraine était ce matin encore sous le feu des drones russes. Nous serons à Nancy, où les jeunes socialistes se choisissent ce week-end un nouveau jeune président socialiste conforme à la ligne politique d'Olivier Faure. Nous serons à Bâle également en Suisse pour la finale de l'Eurovision ce soir. Il y aura les bonnes ondes de Sandrine Houdin sur le succès du beer pong. Entre bière et ping-pong, pour les règles du jeu, on s'en remettra à se passionner.
10 gobelets, une balle, il faut que la balle atterrisse dans le gobelet. C'est super con, c'est complètement con, mais c'est ça qui marche.
Et après ce journal, Secret d'Info, votre magazine d'investigation, Benoît Colomba, sur quel thème ?
Eh bien, nous allons vous raconter comment le géant de la fast fashion, le site de vente en ligne Shein, qui inonde la planète de vêtements à bas prix, comment l'entreprise chinoise déploie de gros moyens en France pour redorer son blason et vient même de recruter l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.
Et puis le temps de ce samedi, Céline Dacosta, du soleil sur quasiment tout le pays.
Oui, il reste des nuages et on verra où à la fin de ce journal.
Et vos prévisions complètes justement dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
Wé Renois, son nom ne vous est peut-être pas familier, mais ce rappeur français était le musicien qui a vendu le plus d'albums en France l'an dernier. Wé Renois est mort ce matin, annonce il y a quelques minutes de son producteur. La semaine dernière, il avait reçu un prix, c'était lors de la cérémonie des Flammes, cérémonie consacrée au rap. Wé Renois aurait été plongé dans le coma la nuit dernière après des complications respiratoires. Son portrait avec vous, Mathieu Culron.
Je connais pas de sourire humain, j'ai mon fer sur moi, gros y'a trop de sourire.
Wé Renois, Jérémy Bana, Owana de son vrai nom, originaire de Montreuil, est repéré par le rappeur Lacrim qui lui offre une collaboration en 2021. La même année, il sort le titre Guadalajara et ensuite, tout va très vite pour lui, il signe sur la maison de disques Believe qui sort son premier maxi Telegram qui l'année suivante devient disque d'or. L'un des titres de ce mini-album, Solitaire, devient disque de diamant. À partir de là, le jeune rappeur ne quittera plus jamais les classements des albums les plus populaires français. L'album Carré, avec des apparitions de Ninho, Tiakola et PLK, devient un classique, devenant numéro 1 du top album français. Le featuring avec Gazo sur le titre Famine est lui aussi un succès. Mais c'est le titre Pyramide avec Damso qui devient un hymne et un disque de diamant. Le disque regorge de collaborations prestigieuses d'Aya Nakamura à Maes, en passant par SCH, Hamza ou encore SDM.
Je veux crier le bordel dans le tunnel, j'ai dû couper les ponts. Quiconque, qu'on y soit proche de tes ennemis, mais faut garder les bons.
Wé Renois, qui l'année dernière était le plus gros vendeur d'albums, devant Indochine, Billie Eilish ou encore Taylor Swift. Wé Renois, qui disparaît suite à des complications respiratoires, il avait 31 ans.
On a ça dans les gènes, on passe sur toutes les chaînes.
Wé Renois, qui devait jouer l'an prochain à la U Arena de la Défense, près de Paris. C'est la plus grande salle couverte d'Europe. Ce matin, à l'Assemblée nationale, les débats ont repris sur la délicate question de la fin de vie. Après une première proposition de loi ces derniers jours sur les soins palliatifs, les députés sont donc rentrés dans le dur hier soir avec la seconde proposition de loi, celle consacrée à l'aide à mourir par administration de produits létals. Donc, 2000 amendements ont été déposés. Bonjour Alice Cachaner.
Bonjour.
Vous suivez les débats à l'Assemblée. C'est donc un sujet très sensible, notamment sur le choix des termes qui figureront dans le texte final.
Oui, faut-il parler d'euthanasie, suicide assisté, aide médicale ou active à mourir ? Depuis hier soir, la bataille sémantique fait rage. À ce stade, les parlementaires ont retenu, je cite, « le droit à l'aide à mourir », une notion trop floue, estime Philippe Juvin, médecin et député Les Républicains.
Au fond, l'aide à mourir, ça existe déjà. Et tous les médecins, tous les infirmières font de l'aide à mourir sans provoquer la mort quand nous accompagnons des familles ou des patients dans leurs derniers instants. Le fait de ne pas utiliser les mots pourrait être une sorte de dissimulation sémantique. Je crois que dans une démocratie mature, on nomme les actes avec justesse.
Une accusation réfutée par les partisans d'une évolution de la loi. Pour le rapporteur du texte, Olivier Falorni, le mot « euthanasie » est aujourd'hui trop chargé d'histoire, celle de la Seconde Guerre mondiale.
Ce mot, il a été défiguré par une politique de crime de masse d'État. On parle d'un mot qui a été utilisé pour justifier le crime de masse de 300 000 personnes handicapées et qui a été le prélude idéologique de la Shoah.
Au-delà des symboles, l'euthanasie et le suicide assisté désignent des actes différents. Dans le premier cas, une tierce personne, souvent un soignant, administre la dose mortelle. Dans le deuxième cas, c'est le patient seul qui agit. Reste à savoir quelles pratiques seront légalisées par les députés dans les heures qui viennent.
Alice Cachaner. Et bonjour Jonathan Denis.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Concernant cette bataille sémantique, vous souhaitez un texte qui assume les termes suicide et euthanasie, assistance au suicide.
Je l'ai toujours dit, j'assume parfaitement les mots euthanasie et suicide assisté. Et d'autres pays avant nous ont assumé ces mots. Je pense notamment, par exemple, à la Belgique. Ensuite, ce que j'entends derrière cette un peu mascarade des opposants qui ont très bien compris ce que revêtait le terme aide à mourir ou aide active à mourir, c'est de pouvoir faire une pure bataille sémantique comme ils l'ont fait sur d'autres questions de société. L'important, c'est de savoir comment nous allons pouvoir accompagner des personnes qui sont malades, qui ont un pronostic vital engagé et qui ont des souffrances qui leur sont absolument insupportables. Donc c'est sur cette liberté de choix que je veux me battre et non pas sur une bataille de mots qui n'apportera pas grand-chose à la loi qui sera, je l'espère, votée prochainement.
Laisser mourir ou faire mourir ou encore se faire mourir, est-ce qu'on s'oriente vers un modèle suisse où le patient avale seul la solution létale ou est-ce qu'il faut passer par un intermédiaire ?
Le modèle suisse, c'est passé par des associations surtout. Et le modèle suisse, c'est payant. C'est près de 10 000, 12 000 euros pour pouvoir être accompagné dans le cadre d'un suicide assisté. Le modèle vers lequel j'aimerais qu'on puisse accéder, qui est un modèle global de soins, c'est-à-dire qui a aussi tout le premier texte hein, sur les soins palliatifs qu'il ne faut pas oublier, mais dans le cadre de l'aide active à mourir, moi je serais pour qu'il y ait une liberté de choix du patient entre l'administration de la substance létale, cette auto-administration, ou la possible administration par un médecin ou un infirmier, ce qui s'apparente à l'euthanasie. Cette liberté de choix, elle existe dans d'autres pays. Je ne vois pas pourquoi elle ne devrait toujours pas exister chez nous demain.
On entend des médecins contre cette aide à mourir. Or, vous avez publié dans votre association ADMD un sondage, une étude il y a quelques jours où les trois quarts des docteurs n'y seraient pas opposés.
C'est une étude de l'IFOP. On entend depuis des années, effectivement, que l'ensemble des médecins, ou une grande majorité de médecins, s'est totalement opposé à l'aide active à mourir. Les chiffres sont là. 7 médecins sur 10 sont favorables à une évolution de la législation. Et surtout, vous n'en avez que 15% qui disent « Moi, je n'accompagnerai certainement pas ». Alors, pour eux, il y a évidemment la clause de conscience. Mais on voit bien que l'immense majorité des Français y est favorable. L'immense majorité des médecins y est favorable. Et l'immense majorité des soignants y est favorable. Aujourd'hui, vous avez des conservateurs qui peuvent exister, ils ont le droit d'être contre. Personne ne les oblige demain à être favorable à une aide active à mourir. Ce qu'on souhaite, c'est que c'est une liberté de conscience totale, mais qu'ils n'interdisent pas un choix, une liberté demandée par des personnes pour qui la vie n'est finalement devenue que de la survie.
Les opposants à l'aide à mourir citent parfois des exemples de pays étrangers où l'euthanasie aurait fait reculer les soins palliatifs. Est-ce que ce serait un risque en France également ?
Mais c'est totalement faux. Tous les pays qui ont avancé sur cette question, avant la France, certains pays ont avancé depuis 20 ans sur cette question. Partout, absolument partout, il y a eu un renforcement des soins palliatifs. Dans plus de la moitié des aides actives à mourir qui sont pratiquées en Belgique, il y a eu un parcours dans les soins palliatifs. C'est 80% au Canada, c'est 95% dans l'état de l'Oregon aux États-Unis. Donc il n'y a pas à opposer les soins palliatifs et l'aide active à mourir. Hélas, en souhaitant scinder le texte en deux, le Premier ministre François Bayrou a fait le choix de les opposer et c'est une très mauvaise chose.
Vous auriez préféré...
Car il doit y avoir... cette compatibilité.
Vous auriez préféré un seul texte. Un mot sur les responsables religieux de France qui dénoncent dans cette future loi un bouleversement profond de l'éthique médicale et sociale. Quel est le poids de la religion dans ce dossier précis ?
Le poids est énorme de la religion, mais comme il l'a été sur toutes les questions de société, je n'attends pas demain que les représentants des cultes nous disent qu'ils sont favorables à l'aide à mourir. Ils ont été absolument contre toute évolution de la société, que ça passe de l'IVG, de la PMA, du mariage pour tous. Donc ils sont finalement dans leur rôle, sauf qu'ils ont un poids très grand, mais ils n'ont pas qu'un poids en tant que représentants des cultes. Ils ont aussi un poids très grand dans ce conservatisme qui reste chez certains représentants médicaux, je pense à certains représentants de soins palliatifs, et il faut regarder les choses en face. Oui, la religion est présente dans ce dossier, mais pas uniquement, comme on pourrait le croire, par certaines tribunes signées d'un évêque, etc. Non, elle est aussi très présente dans la représentation qui est faite d'opposants.
Eh bien, merci d'être venu le dire et donner votre point de vue en direct sur France Inter. En cette mi-journée, Jonathan Denis, président de l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Demain soir, les LR auront un nouveau patron. Les 120 000 militants commenceront à voter ce soir à 18h pour désigner leur champion, soit Bruno Retailleau, soit Laurent Wauquiez, avec en ligne de mire donc la présidentielle de 2027. Et chez les socialistes, c'est aujourd'hui comme un premier tour de chauffe avant leur congrès dans un mois. Les jeunes socialistes sont réunis tout le week-end à Nancy. Près de 2000 adhérents ont choisi Rémi Boussemard comme leur futur président des jeunes socialistes. Il sera intronisé demain. Et sa ligne politique se rapproche clairement de celle du patron du PS, Olivier Faure. Claire Flochel.
Les jeunes socialistes tiennent à le dire. Ils sont autonomes et leurs textes ne sont pas les mêmes que ceux de leurs aînés. Même si Rémi Boussemard, celui qui devrait être élu ce week-end leur président, le reconnaît, les JS sont proches de la ligne portée par le premier secrétaire sortant.
La ligne politique que nous portons en tant que jeunes socialistes, c'est celle du socialisme écologique. Et je suis très heureux de voir que c'est aussi ce que porte Olivier Faure lors de ce congrès. S'agissant de la démarche qui est celle de Nicolas Maillard-Rossignol, je pense qu'il réunit autour de lui des personnes qui refusent de continuer à avancer.
Plutôt pour Olivier Faure donc que pour le maire de Rouen, Nicolas Maillard-Rossignol, les jeunes socialistes disent aussi bien travailler avec le chef des députés PS, Boris Vallot, qui présente également une contribution pour le congrès en juin. Mais un proche de ce dernier affirme que ce congrès des jeunes socialistes n'aura de toute façon pas tellement d'incidence sur celui du PS. Au contraire, estime Rémi Boussemard.
Au dernier congrès des jeunes socialistes, nous étions 850 votants. Aujourd'hui, nous sommes près de 2000. Je pense que ça dit beaucoup sur la dynamique qui est celle que nous avons connue ces dernières années. Il me semble que nous sommes écoutés.
Demain, Olivier Faure sera présent. Il viendra clore ce congrès des jeunes socialistes.
Claire Flochel. Encore un refus d'obtempérer lors d'un rodéo urbain. Ça s'est passé hier soir près de Nancy. Un gendarme a été blessé. Il a été percuté volontairement par un motard. C'est ce que dit un de ses collègues sur place. Le gendarme souffre de fractures assez importantes à la jambe. Le chauffard et l'agresseur présumé a pris la fuite.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
Une rencontre Poutine-Zelensky est possible, à en croire Moscou ce matin. Possible, mais à la condition toutefois que Moscou et Kiev aient finalisé des accords préalables, ce qui semble difficilement envisageable à ce stade, au lendemain des premiers pourparlers qui n'ont pas fait progresser d'un iota la question de la trêve. Et d'ailleurs ce matin, avant cette dernière sortie du Kremlin, Emmanuel Macron a dénoncé la stratégie de Vladimir Poutine qui ne conçoit des négociations, dit-il, qu'en continuant les frappes. Et je précise que ce matin encore, des drones russes ont atteint l'Ukraine. On va en reparler, on écoute d'abord Emmanuel Macron.
Les propositions de cesser le feu, dont je rappelle que c'est une initiative américaine, n'ont pas été respectées par le président Poutine et ses armées. Là-dessus, la proposition du président Poutine a été de dire « Rencontrons-nous à Istanbul, le dimanche, accord du président Zelensky. Et aujourd'hui, qu'avons-nous ? Rien. » Et donc, je vous le dis, face au cynisme du président Poutine, je suis sûr même que le président Trump, soucieux de la crédibilité des États-Unis d'Amérique, va réagir.
Emmanuel Macron ce matin à Tirana, où il participait au sommet de la communauté politique européenne, en présence notamment de Volodymyr Zelensky. Je parlais tout à l'heure d'une attaque de drones russes ce matin dans le nord de l'Ukraine. Isabelle Labéry, vous êtes à Lviv, dans l'ouest du pays. Bonjour.
Bonjour.
Un minibus a été touché, il y a 9 morts et 4 blessés.
Oui, ce bus transportait des habitants de la petite commune de Bilopila, des femmes âgées surtout, qui avaient enfin accepté de laisser derrière elles leur vie et leur maison pour se mettre en sécurité dans la grande ville de Soumy, plus au sud. Bilopila n'est qu'à 10 kilomètres de la frontière. Les attaques russes s'y sont multipliées. Évacuer devenait une nécessité. Le missile a très précisément choisi sa cible. À 6 heures ce matin, le bus circulait sur une route de campagne quasi déserte. Il n'y avait aucun doute possible sur le fait qu'il s'agissait d'un véhicule civil. Selon les autorités ukrainiennes, l'engin explosif était porté par un drone Landsat, classé comme munition rôdeuse, c'est-à-dire capable de surveiller une zone pour y repérer un objectif à détruire. Les employés du service des situations d'urgence ont dû désincarcérer les corps. 5 survivants sont en ce moment même pris en charge à l'hôpital de Soumy. Pour la police ukrainienne, il ne s'agit pas simplement d'un nouveau bombardement, mais d'un crime de guerre cynique. Un deuil de 2 jours a été décrété dans la commune de Bilopila.
Isabelle Labéry en direct, notre envoyée spéciale en Ukraine pour France Inter. À Gaza, des bombardements israéliens ont fait au moins 10 morts la nuit dernière, alors qu'Israël semble prêt à lancer une nouvelle offensive terrestre d'envergure. Et de son côté, l'Irak, qui accueille un sommet de la Ligue arabe. L'Irak a promis ce matin d'allouer 40 millions de dollars à la reconstruction de la bande de Gaza et aussi du Liban. C'est l'événement télévisé le plus suivi dans le monde, hors compétition sportive, la finale de l'Eurovision. Ce sera donc ce soir en direct de Bâle en Suisse. La France est représentée par la chanteuse Louane. Un immense télécrochet où la candidate israélienne a été chahutée jeudi lors des répétitions, chahutée par quelques spectateurs pro-palestiniens. Mais les tensions finalement cette année sont bien moindres que l'an passé. Et il faut dire, Jean-Julien Baldacchino, il faut dire que les organisateurs ont tout fait à Bâle pour apaiser cette Eurovision 2025.
Dans les coulisses du concours, les artistes sont désormais en lien avec un responsable du bien-être chargé d'aménager pour eux des temps de repos ainsi que des zones où ils sont assurés de ne pas être photographiés. Il y a aussi moins de répétitions filmées et de conférences de presse, explique le directeur de l'Eurovision, Martin Green.
There's a lot of young artists. It's the biggest stage.
Il y a beaucoup de jeunes artistes pour qui c'est la plus grosse scène qu'ils aient jamais faite, au sens propre comme au figuré. Donc, ils ont beaucoup de pression et nous voulons nous assurer que leur expérience soit la meilleure possible. Imaginez, vous êtes un jeune artiste, vous êtes sur la scène pour votre première répétition et elle est filmée. Ce ne serait vraiment pas juste.
La télévision suisse a aussi demandé à des mood managers de s'assurer de la bonne humeur des équipes et le résultat se ressent d'après Sébastien Appiotti, chercheur spécialisé dans l'Eurovision, présent à Bâle cette année.
L'année dernière, le concours était vraiment marqué par une actualité et des tensions géopolitiques extrêmement présentes. C'est comme si en fait il y avait un besoin aussi d'insouciance, de faire de l'Eurovision une sorte de bulle de sérénité et de joie, de moments partagés. Et c'est finalement ce sentiment de plénitude qu'on croise dans les rues de Bâle.
Une nouvelle organisation qui n'est pas exempte de critiques, qui dénonce une édition trop policée, avec des directives incitant les artistes à faire preuve de neutralité.
Julien Baldacchino à Bâle et la finale de cette Eurovision à partir de 21h. Donc, et Louane là, devrait défendre les chances françaises autour de 23h passées. À suivre, les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Nous allons essayer ce matin le beer pong. Beer comme bière, pong comme ping-pong. La pratique était jusque-là réservée aux soirées étudiantes alcoolisées, mais désormais le beer pong existe en mode jus d'orange avec des gobelets remplis, posés de chaque côté de la table. Chaque joueur doit envoyer la petite balle dans le gobelet de l'adversaire qui doit aussitôt vider son verre et c'est lui qui a vidé tous les gobelets posés devant lui a perdu. Il existe désormais des tournois. Sandrine a rencontré le président de la Ligue française de beer pong. Edgar Moreau n'en revient pas de l'envolée et du succès des compétitions.
Ne lui demandez pas de compter les balles de ping-pong qu'il a vu tomber dans des gobelets. 2024 bat tous les records. Dernière en date, les championnats de France.
Cette année, on était à 253 équipes. L'année dernière, il y avait 180 et l'année d'avant encore un peu moins de 100. Donc chaque année, en fait, on augmente de entre 50 et 100% du nombre d'équipes. On est presque à doubler à chaque fois le nombre d'équipes sur les championnats de France. On est également présent de plus en plus dans toutes les villes de France. On est aujourd'hui à 20 villes en France et à la fin de l'année 2026, on sera quasiment à 50 villes. Sans compter le nombre de bars qui mettent de plus en plus à disposition des tables de beer pong pour que leurs habitués, leurs clients viennent y jouer. Peut-être parce que moi je me concentre que sur ça, donc dès que je vois une table, je suis content. Mais de plus en plus dans des bars, effectivement, on voit des gens jouer au beer pong, quoi.
Des accros du gobelet qui ne recherchent qu'une seule dose, ça.
Se marrer, exactement. Franchement, on sort du taf et on se dit, on va tirer des balles dans des verres et on va kiffer le moment, quoi.
Et pourtant, on pourrait se dire, c'est un jeu de débilos, quoi.
Je crois que plus c'est débile, plus on kiffe.
Alors, montrez-moi.
Alors.
Position.
Le coude, pas au-delà de la table.
Une balle dans la main, le bras levé, les yeux fixés, c'est parti. À côté.
C'est mon troisième tournoi, mais je suis toujours aussi nulle.
Encore raté, mais c'est pas grave.
Ça change un peu. Moi, je préfère beaucoup plus le contact humain
au virtuel
que le virtuel. Et là, il y a plein de nationalités. La dernière fois, on avait joué contre un Mexicain qui était venu tout seul, qui parlait pas un pet de français, mais on a quand même réussi à parler ensemble et à jouer. C'est trop cool.
Un, deux. Est-ce que vous êtes chaud ou pas? Alors, on va faire une petite démo pour ceux qui connaissent pas les règles.
Quand vous en parlez autour de vous, par exemple, je sais pas, à vos proches.
Alors quand je dis à ma mère que ce soir je vais jouer au beer pong, déjà elle me pose la question, c'est quoi? Avec des grands yeux écarquillés. Ensuite je lui explique rapidement ce que c'est. 10 gobelets, une balle, il faut lancer dedans, il faut que la balle atterrisse dans le gobelet. C'est super con, c'est complètement con. Mais c'est ça qui marche. Là ce soir, plus de 200 personnes à mettre des balles dans des gobelets. Si tu dézoomes un tout petit peu sur la situation, bah, effectivement on paraît un peu pour les fous du bus, mais pas du tout en fait. C'est plus le prétexte en fait de se rencontrer, de voir des gens, de la convivialité entre personnes qui sont prêts à passer un super moment et qui sont super bonne vibe on va dire.
C'est un jeu qui vient des États-Unis.
Complètement, c'est un jeu qui a été inventé aux États-Unis, je dirais au début des années 2000 dans les fêtes étudiantes, où vraiment c'était de la bière dedans, donc on était obligé de boire, dès qu'on se prenait une balle dans un verre, on était obligé de boire ce verre-là. Ça a complètement évolué, c'est encore comme ça aux États-Unis dans certaines villes, mais en France, s'il y en a qui veulent tourner à la grenadine toute la soirée, il n'y a aucune obligation de boire de l'alcool.
Vas-y Rémi.
Yes,
le beer pong dans les bonnes ondes de Sandrine Houdin, le temps.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Eh bien, le soleil sera largement présent cet après-midi.
Oui, il reste juste quelques nuages bas, alors assez nombreux quand même, encore entre les frontières du Nord et du Grand Est à la Franche-Comté, avec même un risque d'ondées. Des nuages, on en a également au pied des Pyrénées, et puis du Var aux Alpes-Maritimes jusqu'en Corse, avec quelques averses qui peuvent devenir orageuses au fil des heures. Partout ailleurs, c'est plein soleil.
Et des températures dites de saison.
Oui, alors le plus souvent, parfois on est même au-dessus de ces normal comme à Perpignan avec 27 degrés. Il en fera 26 à Bordeaux, meilleur de la journée, 25 à Marseille, 24 à Grenoble, 22 à Paris, 21 à Besançon, 20 à Lille, 19 à Brest et l'une des plus basses est de 15 degrés pour Cherbourg.
Les prévisions de Céline Dacosta.